Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'être avec vous pour ce week-end, avec ma famille. Je crois que j'ai fait le calcul, JL, je crois que ça fait 17 ans, il me semble que c'était en 2002 qu'on s'est rencontrés la première fois. Aurore, ça devait être un tout petit peu plus tard, mais toi, ça doit faire au moins 17 ans. Voilà, je m'appelle Philippe Monnery, j'ai 32 ans, je vis à Saint-Étienne, pas très loin de chez vous à Lyon. Je suis marié avec Rebecca, qui est là avec moi ce week-end. Nous avons trois filles, Anaëlle qui a 8 ans, Thaïs qui a 6 ans et Louise qui a 4 ans. Voilà, je travaille comme directeur à France Évangélisation, une œuvre de nos unions d'église qui a pour but de former et d'accompagner des évangélistes au service des églises. Et je suis aussi pour un tiers de mon temps secrétaire général au Réseau FEF. Peut-être que ça vous parle, puisque normalement votre église est membre du Réseau FEF, qui regroupe plusieurs unions d'église, dont les CAEF, dont votre église fait partie, la nôtre aussi à Saint-Étienne. Je suis encore ancien dans l'église locale aussi à Saint-Étienne et impliqué dans différents projets en France et au-delà pour l'avancée de la mission. Voilà, on aura sans doute l'occasion de discuter davantage au travers des repas, aussi dans les temps informels, mais je dirais que je suis un passionné de la mission de Dieu sous toutes ses formes et j'aime encourager l'église et équiper l'église pour qu'elle soit un peuple en mission dans ce monde. Le thème de ce week-end, Dieu, la souffrance et moi, je pense que c'est un thème important à bien des égards. C'est aussi un thème qui est difficile, cette question du mal et de la souffrance. C'est un thème qui pose problème à la fois aux non-chrétiens, mais aussi aux chrétiens, et on en parlera sous ces différents aspects. Et c'est un thème qui est aussi compliqué parce qu'il nous touche tous. Et j'aime dire, quand je parle de ce sujet, que souvent j'ai trois types de personnes en face de moi. Il y a ceux qui ont vécu la souffrance, et peut-être que parmi nous, certains dans le passé ont vécu la souffrance de façon dure, profonde, et que parfois cette souffrance a laissé des traces qui peuvent être même indélébiles. Et puis il y a ceux qui sont en train peut-être de vivre la souffrance en ce moment, et peut-être que devant moi, certains souffrent aussi de façon profonde, peut-être même d'une façon inaudible, que vous ne partagez pas à d'autres. Et puis il y a ceux qui, peut-être, ont échappé à la souffrance passée et présente, mais qui, normalement, vivront la souffrance un jour. Et ce thème nous concerne tous. Vivre, à un moment, c'est souffrir. C'est aller vers une mort qui est certaine, dans un monde qui est déchu. Et nous souffrons tous d'une façon ou d'une autre. C'est difficile et c'est profond, parce que la souffrance nous touche. La souffrance, ça fait mal à l'intérieur. Et peut-être que dans les choses que nous partagerons ce week-end, il y a peut-être des choses qui, à un moment, vont vous faire réagir. Vous allez vous dire, mais si la Bible dit ça, ça me dérange, ça fait mal à l'intérieur, ça renvoie à ce que je vis, et c'est difficile. Et si c'est le cas, ne m'en voulez pas, pardonnez peut-être des maladresses ou des choses qui pourraient vous blesser, mais que ça soit aussi peut-être l'occasion d'entamer une discussion, de réfléchir plus profondément. Et peut-être que ça soit aussi l'occasion d'être interpellé. Et parfois, je dirais comme en médecine, il faut parfois, dans une plaie, aller faire mal peut-être plus profondément pour apporter aussi de la guérison. Et parfois, c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nos âmes, où certaines vérités peuvent parfois nous entailler peut-être un peu plus profondément, mais au final, on se rend compte qu'elles viennent amener finalement de la guérison et guérir des maux qui étaient profonds. En parlant de tout ça, je voudrais dire que je ne suis pas indifférent moi-même à ces sujets-là, puisque je dirais que je suis dans les trois catégories. J'ai vécu la souffrance, je la vis en ce moment, et je la vivrai sans doute encore à l'avenir. Et donc du coup, même si je n'ai pas le monopole de la souffrance, et que peut-être certains ici ont vécu des choses bien plus terribles que moi, je me sens aussi concerné par cela. Peut-être juste pour dire quelques mots, rien que sur les dernières années, mon épouse a passé 2 mois à l'hôpital l'an passé. On a découvert que notre troisième fille souffrait d'une maladie génétique qui porte sur le chromosome 17, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas capable de parler comme un enfant de son âge. Et elle a de nombreux troubles du comportement et entre autres du sommeil, ce qui complique pas mal notre vie de famille. On ne sait pas quel sera son stade de développement. Et c'est des réalités avec lesquelles on vit. Et donc voilà, peut-être simplement pour dire que quand je parlerai de la souffrance, surtout quand on en parlera de manière théorique, sachez que je suis aussi un élève et un étudiant à l'école de la souffrance, et que je vis aussi les combats que certains peuvent vivre ici. et que je dirais l'enseignement biblique, eh bien, à la fois m'apporte du baume au cœur, mais aussi parfois me challenge, me confronte et appuie là où ça fait mal. Et ça fait partie de la vie avec Dieu. Mais le but dans tout ça, c'est que ce que nous allons voir ensemble ce week-end puisse nous aider à la fois à faire peut-être sens de certaines souffrances que nous avons pu vivre dans le passé, que ça nous apporte aussi des réponses, des solutions, du soutien pour les souffrances d'aujourd'hui, et aussi que ça nous prépare pour les souffrances à venir. Je pense que c'est un des dangers dans l'Église, en particulier en Occident, que nous ne soyons pas assez préparés pour les souffrances lorsqu'elles arrivent. Et souvent, ça a des conséquences terribles. Parfois, des chrétiens qui s'éloignent de Dieu, qui parfois quittent l'Église en disant « Mais si c'est ça, la foi chrétienne, si Dieu n'a rien de plus à m'offrir, alors je m'en vais. » Et souvent, à mon sens, ça vient d'un manque de préparation face à la souffrance qui fait que nous avons des illusions, des fausses attentes peut-être même parfois envers Dieu. Et du coup, quand on est confronté face à des situations difficiles, bien, on n'arrive plus à faire sens et on plaque tout, on baisse les bras. Et j'aimerais autant que ce soit possible éviter ça, vous éviter ça pour que vous puissiez face à la souffrance être équipé et préparé. Alors on avancera en trois temps. Ce matin, on va être dans une partie plus, on va dire, théorique, théologique, où on va regarder le problème du mal et de la souffrance de façon générale. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce sujet? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Comment expliquer la souffrance et Dieu en même temps? Et puis ce soir, on s'intéressera plus au chrétien qui est dans la souffrance. Qu'est-ce que la Bible nous dit face à cela? On regardera notamment l'exemple de Job et voir comment est-ce que nous pouvons vivre quand nous sommes dans la souffrance. Et puis demain, on élargira un petit peu pour s'intéresser plus à l'Église. Et une de mes convictions au fil des années, notamment en voyageant et en rencontrant des chrétiens dans des pays où la souffrance est plus présente, c'est que je crois que l'Église est d'une certaine façon un peuple qui est appelé à souffrir et que la souffrance fait partie de notre identité en tant que chrétien. On est fait pour vivre au milieu de la souffrance et aussi être un instrument de rédemption dans cette souffrance. Et c'est ce qu'on regardera demain, comment l'Église est appelée à challenger la souffrance qui est dans ce monde. Et pour ça, eh bien, il faut déjà l'accepter et apprendre à vivre avec. Alors ce matin, pour commencer, le problème du mal et de la souffrance. Et je voudrais d'abord l'aborder peut-être d'une façon pour même des gens qui ne seraient pas encore chrétiens dans la salle, ou si vous avez des amis non chrétiens, c'est souvent une question qui est posée, et on va l'aborder d'abord par cet angle-là. En France, on a une œuvre qui s'appelle les GBU, les groupes bibliques universitaires, peut-être vous en avez déjà entendu parler, ce sont des étudiants chrétiens qui se retrouvent sur les campus de France et qui étudient la Bible ensemble. Ils font aussi des conférences, débats avec les non-chrétiens. Et pendant des années, ils ont fait des sondages sur les campus de France où ils demandaient aux étudiants si vous aviez une question à poser à Dieu, laquelle ce serait. Et que ce soit à La Rochelle, à Strasbourg, à Tours, à Paris, à Rennes, à Toulouse, à Lyon, je me souviens être intervenu sur ce sujet dans un amphi de l'INSA, la question qui revenait toujours en premier à tous ces sondages était celle-ci, formulée parfois différemment, mais si Dieu est bon, ou bien si Dieu existe, pourquoi? Et puis derrière, le mal, la souffrance, l'injustice. Et donc vous pouvez jongler sur ces différentes simulations. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Si Dieu est bon, pourquoi l'injustice? Ce genre de formule. C'est la question qui revenait à chaque fois en numéro un. Et en fait, c'est un peu une exception culturelle. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Dans beaucoup d'autres pays du monde, la souffrance n'arrive pas en question numéro un. En tout cas, en France, c'est le cas. Et quand on demande à nos amis non chrétiens, vous auriez une question à poser à Dieu, laquelle ce serait? C'est la question du mal et de la souffrance. Et ça montre la profondeur et la gravité du dilemme. D'un côté Dieu, et de l'autre côté, le mal, la souffrance, l'injustice. Comment expliquer Dieu, la souffrance? Et souvent, l'idée c'est de dire Dieu, impossible, trop de souffrance. Et c'est cela qui est derrière la question. Et c'est Bertrand Russell, un philosophe athée, qui disait « Si j'avais 10 milliards d'années à investir dans l'univers et que je le retrouvais tel qu'il est, je serais couvert de honte. » Ou alors Voltaire, qui reprenait aussi Hume et Épicure, et qui disait « Si Dieu était bon, il souhaiterait détruire le mal. Si Dieu était tout-puissant, il pourrait détruire le mal. Le mal n'est pas détruit, donc Dieu n'existe pas. » Et cette question-là est celle qui préoccupe bon nombre de nos contemporains. Et ils font le même raisonnement. Si Dieu était bon, il voudrait détruire le mal. Si Dieu était tout-puissant, il pourrait le faire. Et le mal n'est pas détruit. Donc Dieu n'existe pas. Il n'est ni bon ni puissant, il n'existe pas. En fait, la réalité derrière cette question, et comme 90% des questions que les gens ont sur Dieu, que les Français ont sur Dieu, c'est qu'elles sont d'ordre moral. En fait, cette question-là nous montre que les Français ont un problème avec Dieu. Ou plutôt, Dieu a un problème. C'est pas eux qui ont le problème, c'est Dieu qui a un problème. Parce que si Dieu était Dieu, alors pourquoi est-ce que ma vie, elle est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile, etc. Le problème n'est pas chez moi, le problème est chez lui. Et donc les gens ont une objection morale contre Dieu. C'est lui qui a un problème, dans le fond. Et ça, c'est la première chose qui est intéressante à observer. C'est que si les gens ont une objection morale contre Dieu, en disant « Dieu, si tu existes, pourquoi la souffrance ?» Eh bien, en fait, quelque part, c'est qu'ils sont déjà en train d'admettre que Dieu existe. Et il existe, et ils ont un problème avec lui. Ils lui en veulent. Et pour montrer ça, comme point de départ de notre réflexion, je voudrais citer l'extrait d'un livre, un monsieur qui n'est pas chrétien, qui s'appelle Cyril Massaroto, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Dieu est un pote à moi ». On trouvait ça il y a quelques années à la FNAC ou dans les bonnes librairies, ça doit encore se trouver. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, excusez-moi, à certains endroits, c'est un petit peu cru, mais vous allez voir. C'est un dialogue entre un gars et Dieu. Dieu a choisi ce gars comme pote, et ils ont rendez-vous toutes les semaines le vendredi. Et donc, le vendredi arrive, et ce gars-là pose une question à Dieu. Donc, il lui dit « Dieu ?» Oui, répond Dieu. « Ben voilà, je voulais simplement savoir pourquoi tu m'as choisi alors que je suis non-croyant. » Dieu répond « Je t'arrête, tous les hommes sont croyants. » Ah non, moi j'étais pas croyant, jusqu'à qu'on se connaisse. Encore que moi, je m'en foutais un peu, mais il y a des gens, ma grand-mère par exemple, je me souviens que... Et Dieu dit « Ah oui, je sais, mamie André, elle n'aimait pas la religion. Elle te disait toujours que les religieux sont des CONS, que Dieu est une supercherie inventée pour faire espérer ceux qui n'ont plus rien, et que s'il existait ce Dieu, ce serait un beau salaud de laisser tous ces gens mourir de faim dans le malheur et la misère. Et qu'elle aurait deux mots à lui dire à ce Dieu qui vous regarde crever seul et triste. Ben tu vois ? Et Dieu de dire, justement, elle croyait en moi, et beaucoup plus que d'autres, puisqu'elle m'en voulait. Les gens qui pensent comme elle ne m'aiment pas, donc j'existe. Sinon, ils ne penseraient même pas à me dire mes quatre vérités. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais sache que tous les hommes croient en moi. Qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils se revendiquent de moi ou me combattent en tant qu'idée, les scientifiques qui passent leur temps à prouver que rien n'est divin, les anarchistes sans Dieu ni maître qui ont peur de mon existence car ils abhorrent toute domination, les intellectuels et les innocents, tous ceux qui me fustigent et m'assaillent, tous croient en moi à leur façon. Craindre, se méfier, nier, redouter, caricaturer, tenter de prouver, être certain, douter, tout cela, c'est faire exister, c'est croire. » Fin de citation. Intéressant, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui en arrive à la conclusion que finalement, au fond de nous, nous en voulons à Dieu et par là, nous affirmons son existence. Autrement dit, la question, c'est pas Dieu, impossible, trop de souffrance, puisque Dieu est déjà dans la question. Quand on accuse Dieu, c'est qu'on admet son existence, qu'on doute ou bien de sa bonté ou de sa puissance devant le mal, et donc on dit par la même occasion qu'il existe, mais aussi que le mal existe. Et la question, c'est donc comment expliquer à la fois que Dieu est et que pourtant le mal et la souffrance demeurent. Ça, c'est la vraie question. Comment expliquer que Dieu est et que de l'autre côté, il y a la souffrance? Parce que la souffrance, c'est insupportable. Et c'est Henri Blocher, un théologien français, qui disait « c'est l'injustifiable réalité ». On ne peut pas expliquer, justifier la souffrance. Et pourtant, elle est là. Et donc cette énigme, c'est ce que les théologiens ont appelé la théodicée, c'est comment réconcilier ces trois idées. Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment bon, et pourtant le mal et la souffrance existent. Et il y a quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans notre tête. On ne peut pas résoudre cette équation. Dieu est tout-puissant, Dieu est bon, le mal et la souffrance existent. Et les philosophes et les théologiens se cassent la tête et les dents sur cette question. Comment expliquer ça? Et pour répondre à cette question et voir ce que la Bible en dit, on va poser deux autres questions, parce que ça permettra d'aborder le sujet avec un peu plus de rigueur. La première question, c'est la question de l'origine. À qui la faute? À qui la faute du mal et de la souffrance? Et puis la deuxième question, c'est la question du sens. C'est bien beau de dire à qui la faute, mais maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec ? Quel est le sens qu'a la souffrance ? D'accord ? Donc le premier aspect, c'est la personne qui est spectatrice à la télévision ou qui ouvre les journaux. Vous regardez, puis vous voyez les guerres, vous voyez les injustices, vous voyez les famines, les catastrophes naturelles, vous voyez les procès de gens qui commettent des choses infâmes, et on se dit, mais qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça ? C'est la question de l'origine du mal. Qui est responsable ? À qui la faute ? Alors, il y a des fausses solutions qui ont été apportées à ce problème. Et je crois que c'est important de commencer par là, parce que souvent, ce que les non-chrétiens oublient de dire, c'est que le mal et la souffrance n'est pas un problème que pour les chrétiens. Quelle que soit votre philosophie ou votre religion, vous devez répondre à ce problème. Les athées ont tout autant de mal à expliquer l'origine du mal et de la souffrance. Également les musulmans, les hindous, les bouddhistes. Il n'y a pas que nous qui devons y répondre. Et donc la question, avant même de dire est-ce que vous avez une réponse, c'est plutôt déjà de dire qui a la meilleure réponse. Et là, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a 5 grandes explications qui sont données, et les chrétiens n'ont pas la plus difficile à comprendre. Par exemple, l'athéisme propose aussi sa réponse au mal. Et en fait, si vous creusez les penseurs athées, leur réponse à la fin, c'est de dire que le mal n'existe pas. Et c'est un vrai problème. Parce que si le mal n'existe pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous dérange ? L'idée, c'est que le mal et que la souffrance n'existent pas. C'est Friedrich Nietzsche, un penseur de l'athéisme, un philosophe allemand, qui disait que le mal, c'est une invention. Dans le sens que le mal, c'est une catégorie morale, et dans la nature, il n'y a pas de catégorie morale. Et forcément, si tout vient de la matière, vous ne pouvez pas avoir de catégorie morale. Il y a des forts, et puis il y a des faibles. Il y a des lions, et il y a des gazelles qui boitent. Mais il n'y a pas de mal, et il n'y a pas de bien. Tout ça, c'est des inventions. Les hommes ont posé, si vous voulez, des catégories morales, alors que dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas de question, la souffrance fait partie de notre réalité, c'est comme ça que les choses sont. C'est la vie, c'est notre bios, il faut l'accepter, il faut vivre avec. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut laisser les forces vives s'exprimer, nous rappelle Nietzsche. Et les faibles, eh bien, elles ne peuvent rien contre les puissances de la vie. C'est comme ça. Les lions mangent les gazelles. C'est la loi du bios, c'est la loi du vivant. La loi des forces vives. Et le problème avec cette approche, c'est que ça se vend mal. C'est pas marketing de dire ça. Je sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Moi, je me souviens d'athées qui criaient et qui disaient « Mais c'est pas juste !» Et j'ai dit à un ami athée « Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas juste ?» Parce que si tu es athée, tu crois pas aux catégories morales. Et donc, tu es obligé de convaincre comme Nietzsche qu'il y a les forts et qu'il y a les faibles. Et que la mitraillette des terroristes est plus forte que le stylo des journalistes. C'est comme ça. Ou alors, il y a un problème quelque part. Au fond de nous, on se dit « Mais non, ça peut pas être comme ça. » Walt Disney a bâti un empire en proclamant le contraire. À la fin, il y a un petit qui gagne contre le fort. Mais ce n'est pas la loi de la nature, ça. Il y a quelque chose en nous qui dit « Ça ne peut pas juste être naturel. Ça devrait être autrement. » Et il suffit de voir comment les athées réagissent à l'injustice pour s'en rendre compte. Mais dire que ce n'est pas juste, d'où nous vient ce sens ? Dire c'est mal, comment on sait que c'est mal ? Est-ce que c'est mal pour moi ? Ou est-ce que c'est mal de façon universelle ? Et si c'est mal de façon universelle, alors il y a un bien universel. Et s'il y a un bien et un mal universel, vous avez une loi morale universelle. Et si vous avez une loi morale universelle, vous avez forcément un législateur moral universel. Et c'est ce que nous appelons Dieu, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que l'athéisme nie Dieu. Et donc, vous n'avez plus de questions à la fin, mais vous avez un non-sens avec lequel il faut vivre. Alors, certains se sont dit, non, le problème, ce n'est pas que le mal n'existe pas, il doit y avoir une autre solution pour résoudre le problème. Une autre solution, c'est sans doute que Dieu n'est pas assez puissant. Et plusieurs pensées vont dans ce sens, c'est notamment l'idée du dualisme. Si Dieu ne peut pas détruire le mal, c'est parce qu'en fait, le mal est aussi fort que lui. Il y aurait une sorte d'anti-dieu qui lutterait contre Dieu. Et il y a cette bataille, et c'est pour ça qu'il y a le bien et le mal dans ce monde. Ça, c'est la pensée de Star Wars. Si vous regardez les Jedi qui se battent, « Luke, je suis ton père », vous avez la force et le côté obscur. Il y a d'un côté le bien et un anti-dieu contre le bien. Et c'est ce qui fait qu'on a ces deux choses-là, et il faut choisir son camp. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudrait simplement accepter ces deux idées. Mais la Bible ne défend pas ça. Et on en reparlera quand la Bible parle du diable. Le diable n'est pas un anti-Dieu. Le diable est une créature de Dieu et qui est totalement sous son contrôle et qui est même tenue en existence par le Christ qui soutient toute chose par sa parole puissante. Un troisième aspect, donc dans ce cas-là, on nierait la puissance de Dieu. Dieu n'est pas assez puissant, le mal est trop fort. C'est pour ça qu'il y a ça. Et nous croyons que Dieu est tout puissant. Donc on verra comment on le réconcilie. Troisième aspect, ce serait de nier la bonté. Dieu est, le mal est, Dieu est puissant, mais en fait Dieu n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a le mal. Le mal vient directement de Dieu. On imaginerait un Dieu qui, des fois, il a envie d'être bon, il fait le bien, et puis des fois, il vous envoie le mal. Et l'islam a beaucoup de mal à répondre avec ça. Certaines lectures du Coran sont tellement fatalistes qu'elles laissent croire que Dieu envoie le mal directement. Même pas forcément qu'il l'utiliserait de façon indirecte, mais il l'envoie directement. Ou alors, vous avez le panthéisme qui dit que tout est Dieu, et donc le bien comme le mal font partie de la nature de ce Dieu, de cet univers qui était là, ça fait partie de son être. Tout ça, ce sont des fausses pistes. La dernière piste qui existe, c'est de dire que le mal vient de quelque chose qui a été créé par Dieu. Et c'est cela que la Bible défend. Le mal vient de quelque chose ou de quelqu'un qui a été créé par Dieu. En fait, la Bible, je vais me dire aux non-chrétiens qu'elle n'est pas si compliquée. Vous prenez la Bible et vous l'ouvrez simplement aux premières pages. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à le faire. Et quand vous regardez la Bible, si vous savez compter jusqu'à 3, vous avez déjà tout le message de la Bible. Et vous avez les explications à la plupart des grandes questions que les gens se posent. Et au passage, c'est une manière simple d'expliquer l'évangile que vous pouvez retenir. Vous comptez jusqu'à 3, comme les 3 premiers chapitres de la Bible. Et vous avez le premier chapitre, et quelle est la première chose que la Bible vous dit ? Au commencement, Dieu créa. C'est le postulat. Nous venons de Dieu qui a créé toute chose. Il est le seul être qui existe par lui-même. C'est la définition même de Dieu. Quand un enfant vous dit, mais si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu ? Non, Dieu existe de lui-même. C'est la définition. Au commencement, Dieu. Et la première chose que la Bible nous dit, c'est que Dieu crée. Il est présenté comme créateur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crée l'univers, il crée le monde, il crée les animaux, il crée les hommes, il crée les femmes. Et ce qu'on voit à la fin de la semaine de la création, c'est que tout est bon. Et le mal n'est pas mentionné dans ce monde-là. Au contraire, l'homme est placé dans un jardin qui s'appelle Éden, délice. L'homme et la femme se sont nus, et l'idée qu'il y a derrière la notion de nudité, c'est cette absence de honte, où je peux tout montrer sans rien cacher. Je n'ai pas besoin de cacher ce que je pense, ce que je suis à l'intérieur, de vivre derrière un masque. Il y a un sentiment de plénitude totale, où je peux être tel que je suis réellement. Chapitre 1, Dieu est présenté comme créateur. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Dieu va avoir cette discussion avec l'homme, et c'est au chapitre 2, au verset 16, où il va dire « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Chapitre 1, Dieu est présenté comme créateur. Chapitre 2, qu'est-ce que fait Dieu ? Il donne des lois dans le monde créé. Il pose un cadre moral. Autrement dit, après être présenté comme créateur, Dieu est présenté comme législateur. Celui qui donne des lois et des règles. On pourrait aussi dire comme roi, puisqu'il est à la fois celui qui donne la loi, mais qui se charge de la faire obéir. Donc un Dieu qui crée et un Dieu qui légifère. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'homme étant créé par Dieu, et à l'image de Dieu, Dieu étant un être moral, eh bien l'homme a cette responsabilité morale vis-à-vis de Dieu d'obéir aux lois que Dieu a fixées. Et jusque-là, tout va bien. Un, Dieu créateur. Deux, Dieu législateur. Tout va bien jusqu'au moment où l'homme va chercher à prendre une prérogative, un droit qui n'appartient qu'à Dieu. Et c'est justement le droit d'être Dieu et de légiférer dans l'univers. Et la tentation est très intéressante. On la voit au chapitre 3, le serpent, donc bien sûr le diable qui vient. Alors est-ce que le diable est venu sous un vrai serpent ou est-ce que c'est une image du diable ? Je vous laisse trancher là-dessus, le cœur du sexe n'est pas là. En tout cas, le serpent vient, c'était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à mettre en doute la loi de Dieu et à dire, « Es-tu vraiment sûr de quelle est la loi de Dieu ?» Et puis, il discute avec la femme, et la femme dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal, qui décident ce qui est bien et ce qui est mal par eux-mêmes. Hein. Ils ont un sens moral entre eux, détaché de celui de Dieu. Qu'est-ce que Satan est en train de dire ? Il est en train de dire, un Dieu créateur, soit. On veut bien, les déistes aussi croient ça après tout. Mais un Dieu législateur qui vient te dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voyons, c'est pas sérieux. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas être, toi, ton propre législateur et ton propre roi ? Et comme ça, tu décides pour toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, tu deviens comme Dieu. C'est cela dont il est question. Et ça, c'est la tentation. C'est le péché, c'est la chute. C'est de vouloir être son propre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les philosophes modernes n'ont rien inventé. Vous lisez « L'existentialisme est un humanisme » de Sartre, il dit exactement ça. Il dit « Nous sommes nos propres législateurs. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'est pas. C'est à nous de définir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. » Et vous comprenez pourquoi après, ils en veulent à Dieu qu'il y ait le mal dans le monde. Le problème vient de là. C'est que nous reprochons à Dieu le mal, mais en fait, nous voulons décider pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme se détourne de Dieu et devient son propre législateur. Et c'est saint Augustin, un théologien chrétien du IVe siècle, qui dira que ceci, c'est le mal. Le mal, c'est cette dépravation du bien, où je tords l'ordre qui avait été fait par Dieu, créer, déformer, mettre quelque chose de nouveau à la place. Les anciens raisonnaient en termes de fondamentaux. Prenez par exemple la laideur. Qu'est-ce que c'est que la laideur ? C'est pas quelque chose qui existe en soi. La laideur, c'est vous prenez quelque chose de beau et vous le défigurez. Et ça devient le laid. C'est un manque de beauté. Qu'est-ce que c'est les ténèbres ? C'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est l'absence de lumière. Vous enlevez la lumière, il y a les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que le froid ? Si vous avez étudié la physique, vous saurez qu'on mesure seulement la chaleur. Et quand il y a plus de chaleur, qu'on tend vers le zéro absolu, eh bien, on a cette sensation de froid. Qu'est-ce que c'est que la rouille ? C'est une corruption du fer. Qu'est-ce que c'est que le désordre ? C'est un manque d'ordre. Et qu'est-ce que c'est que le mal ? Eh bien, en fait, c'est une dépravation du bien. C'est l'absence du bien du fait que nous nous coupons de ce Dieu pour être nos propres dieux. Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Eh bien, c'est une absence de plénitude. Dieu est le bien suprême. Et qu'est-ce que fait l'homme, nous dit Augustin ? Il se coupe du bien suprême et donc il n'a aucun bien en dehors de ça. Et c'est pour ça que le mal apparaît. Et parce que Dieu est la source de toute vie et de toute plénitude, lorsque nous nous coupons de lui, eh bien, nous expérimentons ce manque de plénitude. Et c'est ce que nous appelons la souffrance, et qui se manifeste sous tellement de formes. Au moment où l'homme décide de choisir autre chose que Dieu, il fait le mal. Donc c'est cette idée de dire, le mal en soi n'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui existerait. Le mal est là lorsque nous nous détachons de Dieu, qui est la source de toute bonté, de toute plénitude, et que nous sortons du cadre qui est prévu par lui, eh bien il y a cette absence. Et c'est là où se trouve le mal, cette déformation. C'est souillé, c'est abîmé. Et c'est ce qu'on verra dans la Bible, dans ce qui est appelé le péché. Un péché, c'est tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, qui rate cette cible, ce projet voulu par Dieu. Une des premières choses qui apparaît avec le péché, très vite, c'est que c'est laid. C'est laid, c'est tordu. Cette notion que la Bible dira d'iniquité. Vous prenez quelque chose de beau, et vous le tordez suffisamment pour en faire quelque chose de laid. Et on voit que le mal souvent fait cela. Vous prenez la sexualité qui est belle, vous tordez, vous en faites la pornographie. C'est l'iniquité, c'est la laideur du mal. Et donc l'homme sort de la présence de Dieu, il n'est plus comblé, le mal apparaît, il va devoir vivre avec la peur, la honte, la culpabilité, c'est ce qu'on voit dans les versets qui suivent. Mais ce qui est beau, c'est que dans ce troisième chapitre de la Genèse, là où l'homme se renie ce Dieu créateur, législateur, se détourne de lui, eh bien on voit au verset 15 que Dieu va parler au serpent et il va dire « Je mettrai inimitié, hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et les théologiens savent que dans ce verset-là est déjà annoncée la victoire de Dieu sur le mal au travers de l'œuvre de Christ qui, un jour, écrasera la tête du serpent. Et dans ce même chapitre, Dieu va également faire un autre acte extrêmement fort. À la fin du chapitre, alors que Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus, qu'ils ont honte, qu'ils se sentent coupables, eh bien Dieu va leur faire un animal avec des peaux de bête. Et pour faire un animal avec des peaux, il a fallu tuer un animal. Et donc là où Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, hein, la mort vient de là, ils ne vont pas mourir tout de suite, mais quelqu'un d'autre va mourir à leur place pour couvrir leur honte. Et Dieu annonce de façon imagée ce qu'il fera bien plus tard, hein, qui va se reproduire dans tous les sacrifices, une idée de substitution. Tu es coupable, mais quelqu'un meurt à ta place et qui va aller jusqu'à la grande substitution de la croix, où Dieu lui-même vient prendre sur lui notre péché pour que nous recevions sa justice, que nous soyons revêtus. Autrement dit, au chapitre 1, Dieu est créateur. Au chapitre 2, Dieu est législateur. Au chapitre 3, Dieu se présente déjà comme rédempteur ou comme sauveur. Celui qui vient racheter, restaurer ce qui a été brisé. Et c'est pour ça que je dis que si vous voulez comprendre la Bible, il suffit de compter jusqu'à 3 parce que vous arrivez au troisième chapitre de la Genèse et on vous a déjà tout dit. Dieu a créé le monde, tu es une créature, il est ton roi, tu dois lui obéir, tu t'es détourné de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient restaurer ce qui a été brisé. Et de la même façon qu'il appelle Adam dans le jardin « Où es-tu ?» quand il se cache parce qu'il a honte, eh bien Dieu cherche chacun d'entre nous en disant « Où es-tu ? Tourne-toi vers moi pour être restauré. » Et cette œuvre de restauration eh bien, continue jusqu'à la fin de la Bible. Et si vous ouvrez maintenant dans les deux dernières pages de la Bible, dans Apocalypse, au chapitre 21, eh bien là vous voyez la conclusion de toute l'histoire. Et le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a cette vision de la gloire à venir et il dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. » Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc Dieu annonce qu'un jour il va restaurer ce qui a été brisé, et il nous montre la dernière page de l'histoire de l'humanité, de l'histoire tout court, où il essuiera toute larme de nos yeux avant l'éternité, avec une nouvelle humanité, avec ceux qui auront été réconciliés avec lui. Et en fait, nous vivons entre ces deux événements. On vit dans ce temps où Dieu est en train de restaurer ce qui a été brisé. Et donc la réponse de la Bible à la théodicée, à cette problématique, c'est que oui, Dieu est tout-puissant, il peut détruire le mal. Oui, Dieu est bon, il veut détruire le mal. Le mal existe, mais parce que Dieu est tout-puissant et parce que Dieu est bon, un jour le mal ne sera plus. Et le problème, c'est que nous voudrions qu'il le fasse tout de suite. Et pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas tout de suite? Eh bien, justement, parce que nous sommes encore dans ce temps où il cherche à restaurer ce qui a été brisé. Et il continue à nous appeler et à dire, mais au lieu de m'en vouloir à cause du mal qu'il y a dans le monde, tourne-toi vers moi, je t'aime, je veux être réconcilié avec toi. Nous avons un Dieu qui ne nous demande pas de faire des choses pour lui, comme s'il avait besoin de nous. Il a pas besoin de notre argent, il est plus riche que nous. Il n'a pas besoin qu'on soit gentil, il est plus gentil que nous. Il nous demande simplement de l'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier. Et non seulement il nous a aimés en créant ce monde et nous en mettant dedans et en créant un cadre pour qu'on puisse vivre comme ces créatures, mais il nous a aimés alors même que nous l'avions rejeté. Et ça, c'est ce que nous montre la Bible au travers de l'œuvre de la croix qui est au centre de cette grande période où Dieu restaure ce qui a été brisé. Au centre, vous avez la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? C'est Dieu lui-même qui vient dans la personne de Jésus-Christ, lui qui n'a jamais vu le mal, lui qui n'a jamais commis aucune faute, il vient lui-même se soumettre au mal. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que à la croix, Jésus vient vivre et prendre sur lui la punition que l'humanité mériterait pour s'être détournée de Dieu. Dieu avait dit « Le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras ». Et bien sûr, il y avait la mort physique. Adam et Ève sont morts, ils ne sont plus là et nous tous nous mourrons un jour. Mais ça, c'est qu'un aspect de la réalité. Il y a derrière cette réalité de la mort quelque chose de bien plus profond. C'est cette mort spirituelle, ce vide au fond de nos cœurs qui vient du fait que nous sommes séparés de Dieu et qui annonce une mort encore plus terrible qui est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu dans ce lieu que la Bible n'appelle pas l'enfer, mais nous l'appelons comme ça, qui est un lieu de tourment, de détresse, de douleur, où les hommes vont continuer simplement à rejeter Dieu et en subir les conséquences pendant toute l'éternité. Et Dieu veut nous épargner cette punition que nous méritons. Et à cause de cela, il vient lui-même en Jésus. Sur la croix, Jésus-Christ a vécu l'enfer, il a été séparé de Dieu, il a vécu la punition que nous méritions, et de telle sorte que si nous nous confions en lui, eh bien ce qu'il a fait nous est compté comme justice, nous pouvons être graciés, réconciliés avec Dieu. On n'a pas un Dieu qui est insensible et qui est en dehors du mal et la souffrance. Il peut l'enlever, il veut le faire. Mais comment il le fait? Il le fait d'une telle façon qu'il vient payer les conséquences que nous mériterions, de telle sorte que le mal soit enlevé dans la personne de Christ, tout en nous enlevant les conséquences que nous devrions subir. Et c'est ce qui permet que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que Dieu attend. L'Écriture dit Dieu attend. Un jour, il jugera. Mais il attend parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse et que tous puissent être réconciliés. Si Dieu tirait le trait de l'histoire maintenant, et des millions seraient séparés de lui à tout jamais, peut-être même certains ici seraient séparés de lui à tout jamais. Et Dieu continue d'appeler. De dire oui, un jour, le mal sera définitivement enlevé. Oui, un jour, la souffrance cessera. Mais ce jour-là, seuls ceux qui auront été au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix hériteront de cette nouvelle terre où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance. Les autres continueront à souffrir pour l'éternité des conséquences du mal, dont ils sont la cause parce que nous sommes tous pécheurs, tous rebelles contre Dieu par nature. Nous voulons tous être Dieu à la place de Dieu. Et donc, Dieu crie dans le mal et la souffrance, et il nous appelle à nous repentir et à dire « Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, soyez réconciliés, parce qu'un jour j'enlèverai le mal de la terre. » Et alors, ça pose cette question aussi, si le mal vient de l'être humain, et si à cause de cela, eh bien, nous vivons le mal dans ce monde parce que l'humanité s'est détournée de Dieu. Maintenant, quel est le sens de tout ça ? Au quotidien. Ok, on a vu quelle est la faute, mais quel sens a la souffrance quand je la vis? C'est bien beau de savoir qui est le coupable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on va aborder rapidement quelques réponses, on reviendra ce soir dessus. Et juste rapidement, la Bible donne différentes raisons pour lesquelles nous souffrons. Il y a d'abord toutes ces souffrances qui sont simplement la conséquence de ce monde déchu. Et vous avez par exemple dans Luc au chapitre 13 et au verset 4 où des gens viennent voir Jésus et disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens qui étaient sous une tour et la tour est tombée, ils ont été écrabouillés dessous ?» Et Jésus dit « Mais ils n'étaient pas plus coupables que les autres. Maintenant, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même façon. » Ce mal, entre guillemets, naturel, ces catastrophes naturelles, ces choses qui arrivent dans le monde, annoncent juste le jugement final de Dieu contre une création déchue. Et donc, en fait, ce n'est pas que les gens qui meurent sont plus coupables que d'autres. Ils sont simplement les victimes du mal qui est là à cause de nous tous et qui nous rappelle que nous tous, nous périrons de la même façon. Alors, bien sûr, certains ont 70 ans et d'autres seulement 10 ou 15 ans et d'autres encore moins. Mais le résultat, à la fin, est le même. Si nous ne nous repentons pas, nous périrons. Et c'est C.S. Lewis qui disait que cette souffrance est là pour nous parler. Dieu murmure à nos oreilles dans nos plaisirs, mais il nous parle au travers de notre conscience et il crie à nous dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et souvent, quand nous voyons ces choses-là, ça nous interpelle. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu veut nous parler avec ça. Et au-delà de ces catastrophes naturelles, cette souffrance qui est liée à la chute, il y a parfois des jugements spécifiques de Dieu. Certains hommes souffrent parce qu'ils ont fait le mal et que Dieu les juge déjà aujourd'hui. Et parfois, ça touche même les chrétiens. Si vous regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 11, les versets 27 à 30, Paul dira que certains chrétiens dans l'église de Corinthe blasphémaient contre Dieu en participant au repas du Seigneur de façon indigne. Et c'est pour ça qu'ils étaient frappés, nous dit le texte, de maladie. Il y a ce côté de jugement. Il y a des fois, nous dit l'Écriture, où la souffrance est liée à des attaques du diable. Jésus, dans Luc au chapitre 13, verset 16, dit qu'il a guéri une femme que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Ce n'était pas sa faute à elle, c'était plus que quelque chose général lié à la chute. C'était vraiment le diable qui, pour on ne sait quelle raison, avec ses démons, avait ciblé spécifiquement cette femme, et elle était tourmentée dans son corps pendant 18 ans à cause de cela. Mais rappelons-nous, le diable et les démons ne sont que des créatures de Dieu. Ils n'ont pas autant de pouvoir que lui, mais ils ont un rôle. Ils contribuent à une part la souffrance dans ce monde. Et puis la Bible dit aussi qu'il y a une certaine souffrance, eh bien, qui est liée à des corrections que Dieu nous inflige si nous sommes chrétiens. Et vous voyez ça dans Hébreux au chapitre 12, les versets 5 à 7. Dieu est notre Père et il nous discipline par la souffrance. Et si vous relisez ce texte, vous verrez que d'une certaine façon, l'auteur nous dit que qui aime bien, châtie bien. Et Dieu nous aimant bien, eh bien, il nous châtie bien pour que ça nous fasse grandir. Et parfois, on a du mal à accepter cela. Mais quand vous regardez la façon dont les auteurs du Nouveau Testament parlent de la souffrance, notamment dans les Épîtres, vous verrez que quelle que soit l'origine de la souffrance, qu'elle vienne de la chute, ou qu'elle vienne du diable, ou qu'elle vienne du jugement de Dieu, ou qu'elle vienne de tout ça, ils vont surtout insister là-dessus. Par la souffrance, Dieu veut nous éduquer. Il veut nous former, il veut nous forger, quelle qu'en soit l'origine. Ce qui amène à une autre épreuve, au-delà de l'éducation, on pourrait dire disciplinaire, qui pourrait donner un sens un petit peu négatif, Dieu nous corrige. Dieu veut aussi utiliser la souffrance pour nous perfectionner, des épreuves que l'on endure pour renforcer notre foi. On voit ça dans 1 Pierre, par exemple, chapitre 1, les versets 6 à 7, que l'épreuve de notre foi nous amène à être plus forts que l'or. Hein. Jacques dira ça aussi, que l'épreuve produit la patience, la persévérance. Et puis enfin, il y a cette souffrance, nous dit l'Écriture, qui permet l'exaltation de la gloire de Dieu. Et c'était la grande question des disciples dans Jean chapitre 9, quand ils ont vu cet homme aveugle de naissance. Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents, pour que cet homme soit né aveugle ? On se demande s'ils ont cru un instant à la réincarnation, parce que s'il est aveugle de naissance, on se demande comment il aurait pu pécher, enfin comment ça pouvait être de sa faute. En tout cas, ils se sont dit, est-ce qu'il a été déjà jugé pour les péchés qu'il allait commettre plus tard ? On ne sait pas, c'est une théologie un peu bizarre. En tout cas, Jésus leur répond, il leur dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus voyait cette souffrance, et cette souffrance va permettre d'exalter la gloire de Dieu. Et on voit ça maintes et maintes fois, hein, de différentes façons, ça se manifestera. Et certains disaient que Dieu est un expert dans l'art du kintsugi, je ne sais pas si vous connaissez cet art. C'est un art japonais qui consiste à construire des magnifiques objets à partir d'objets brisés. Et donc vous prenez un vase, vous le cassez, et puis ensuite vous recollez les morceaux et vous les collez avec de l'or, de la feuille d'or, et ça donne des œuvres absolument magnifiques. Vous pourrez chercher sur Google les images, ça s'appelle le kintsugi, ou sinon vous cherchez vase japonais avec de l'or, et vous allez voir, vous allez trouver. Et Dieu fait ça avec nos vies. Souvent nos vies sont brisées par la souffrance, mais Dieu va reconstituer, et ces endroits même où il y avait des blessures, eh bien, c'est là où il va faire passer sa lumière et mettre de l'or dans nos vies. Et parfois, nous voyons des chrétiens qui ont souffert, qui sont passés par toutes sortes de tribulations, et puis vous voyez ce que Dieu a produit en eux au travers de cela, et vous dites, ben, c'est pas cool qu'ils soient passés par là, hein. Sans doute qu'ils ne souhaiteraient pas le revivre, et franchement, le résultat à la fin, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça donne une vie qui est belle et qui glorifie Dieu. Et on le voit maintes et maintes fois dans l'Écriture. Prenez par exemple l'histoire de Joseph. Cet homme qui est vendu par ses frères comme esclave quand il est tout jeune, qui passe peut-être 15, 20 ans et puis en prison, et puis toute une histoire rocambolesque. Et finalement, du jour au lendemain, Dieu le sort de là, il se retrouve premier ministre du Pharaon. Et à la fin, il dira à ses frères, « Vous savez, hein, vous m'avez vendu comme esclave, mais surtout c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. » Parce qu'il voulait sauver la vie à un peuple nombreux. Et vous avez le psaume 105 qui dit « Dieu envoya un homme devant eux, Joseph fut vendu comme esclave en Égypte ». On a presque l'impression que finalement, c'était plus Dieu que les frères dans tout ça. En tout cas, Dieu est sorti glorifié. Un autre exemple de ça, et le plus grand des exemples de ça dans la Bible, c'est la croix. Où l'apôtre Pierre dira que « Contre ton saint serviteur Jésus, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués ». Ils se sont ligués, c'était le mal, c'était horrible, c'était la souffrance. Dieu, moralement, ne veut pas ça. Il ajoute « Selon tout ce que ta main et ton conseil avaient décrété d'avance ». Moralement, il ne le veut pas, mais dans son plan glorieux, Dieu avait choisi que ça se passe comme ça. Il a utilisé des hommes méchants pour permettre de sauver l'humanité entière au travers de Christ. Et la réalité, c'est que souvent, nos souffrances, eh bien, en fait, sont un mix de toutes ces raisons. Elles peuvent être des jugements de Dieu, des conséquences de la chute, des attaques de Satan, une correction que Dieu nous inflige, des épreuves pour notre foi, et à la fin, elles permettent que Dieu soit glorifié dans tout ça. Et c'est ce qui fait que c'est si compliqué. C'est que nous, on regarde le détail de nos vies, et on pointe et on dit « Mais alors là, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Tu me reprends, tu m'éduques, j'ai fait quelque chose de mal, c'est juste comme ça parce qu'on est dans un monde pourri, tu veux faire un miracle ?» Et on ne sait pas. Et on ne sait pas. Et c'est compliqué, et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où il y a cette part de mystère. Et c'est là où on en parlera ce soir. Comment faire quand on est dans le mystère de la souffrance ? Et la bonne chose, c'est que la Bible nous donne beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui sont passés par là, et notamment dans la littérature de sagesse, que ce soit le livre de Job, les Lamentations, aussi les psaumes, qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut faire même quand on ne comprend pas. Et pourtant, que Dieu est là. Juste pour en revenir ce matin, et peut-être ce soir on aura plus de temps aussi pour des questions, on pourra revenir dessus, mais je voudrais dire que quand on dépeint tout ça, rappelons-nous, nous qui sommes croyants, que Dieu, lui, voit toutes choses en même temps. Il voit déjà la chute, et puis il voit déjà le ciel, et puis il y a la croix au milieu, et toutes ces choses-là jouent une place dans cette grande histoire. Et j'aime cette image que donne John Piper. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Le mal fait-il partie du plan de Dieu ?» et il en parle dans d'autres livres. Et il dit « Imaginez, si vous regardiez ce mur, alors en l'occurrence, il est pas très beau, mais imaginez s'il avait été crépi et qu'il soit joli. Vous regardez un mur crépi, ben, si vous le regardez de loin, vous dites « Waouh, quel beau mur, c'est beau !» Mais si vous regardez maintenant avec un microscope et que vous allez voir tous les détails, vous aurez l'impression de près qu'il y a des tas d'imperfections. Et pourtant, ces imperfections contribuent à la beauté de l'ensemble. Et imaginez l'histoire des hommes et de l'univers, et depuis la création jusqu'à l'éternité, comme une immense fresque qui rend gloire à Dieu. Et au centre de cette fresque, vous avez le héros de l'histoire. Et il s'agit de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en héros triomphant, le lion et l'agneau, qui resplendit au milieu de la fresque. Et puis sur le reste de la fresque, vous avez tous les détails de l'histoire humaine et les moindres détails de nos vies. Et si vous prenez un zoom et que vous regardez les petits détails, vous allez voir des choses extrêmement laides. Vous allez revoir ce jour où les frères de Joseph l'ont jeté dans la citerne pour le vendre en Égypte. Vous allez voir les heures les plus sombres de vos vies où vous vous demandiez pourquoi est-ce que Dieu vous traitait comme ça. Et puis, vous allez voir l'ensemble et vous allez dire « Ah, mais en fait, parce qu'il s'est passé ça ici, en fait, ça joue tel rôle dans la fresque et finalement, ces points noirs contribuent à glorifier l'ensemble de la fresque et à la rendre encore plus belle par contraste. Comme quand vous alliez au Louvre et que vous regardez ces immenses tableaux et que vous avez ce mélange de couleurs et ce qui fait sortir la beauté au centre, c'est qu'il y a des contrastes et qu'il y a d'autres choses autour. Et bien, de la même façon, nos souffrances, le mal et toutes ces choses ne viennent pas du cœur de Dieu. Le coupable, on l'a nommé, hein, l'homme, les créatures, Satan. Et c'est nous qui en sommes le coupable, mais Dieu va faire rentrer tout ça dans son plan et à la fin le sublimer pour sa gloire. Et je crois qu'en tant que chrétien, c'est ce qui nous aide à faire sens de la souffrance. C'est de se dire, nous ne vivons pas simplement dans le présent immédiat, nous vivons dans ce continuum qui part de Genèse 3, qui va jusqu'à Apocalypse 21, où Dieu est en train de restaurer ce qui a été brisé. Et parce que Dieu est parfaitement bon et parce que Dieu est parfaitement puissant, nous savons qu'un jour cette grande fresque sera finie. Et peut-être que nous sommes qu'encore un petit point au milieu où on ne comprend rien de ce qui se passe. Où on semble être dans une machine à broyer et on ne sait pas si on en sortira. Mais malgré tout, Dieu est en train de faire la fresque. Et c'est ce qui permet parfois, quand vous êtes au fin fond de l'épreuve, et je me souviens, j'y étais il y a un an et demi, je me retrouvais tout seul chez moi, j'étais en train de prendre ma douche, et je me disais, mais Seigneur, je ne sais pas demain ce que ce sera. Je ne sais pas dans un mois ce que ça sera, je ne vois pas plus loin qu'une journée. Et j'avais en moi ce chant qui revenait, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos d'être à toi. Pourquoi ? Parce que moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il nous a déjà dit, la dernière page de l'histoire, on sait qu'à la fin, ça finit bien. Je vous propose de prier, et puis on en reste là pour maintenant. Seigneur, nous abordons des sujets compliqués, complexes, et qui touchent aussi aux réalités de nos vies. Seigneur, je te prie que tu me donnes de ne pas les rendre encore plus complexes, mais de pouvoir donner quelques éclairages et qui fassent du bien à mes frères et sœurs, qui me fassent du bien aussi. Donne-nous aussi de savoir répondre aux questions qu'on nous pose et à donner des explications face à ceux qui sont troublés de la souffrance et qui en font une raison pour ne pas te suivre. Seigneur, qu'on se rappelle que toi, tu n'as pas voulu le monde avec le mal. Tu as voulu qu'il soit bon et tu as choisi même de te soumettre au mal en venant à la croix, accepter de mourir alors que tu n'étais pas destiné à la mort. Mais tu as vaincu la souffrance, tu as vaincu le mal en ressuscitant. Et cela nous assure qu'un jour, le mal sera enlevé totalement. Seigneur, en attendant qu'aujourd'hui, tu nous donnes de faire sens de la souffrance avec les éléments que nous pouvons trouver dans ta parole, mais surtout qu'au-delà de ça, tu nous donnes d'expérimenter ta présence dans toute situation et qui permet même quand c'est mystérieux et que nous ne comprenons pas ou que nous n'arrivons plus à lever la tête vers les choses lointaines et glorieuses que tu nous promets, Seigneur, que dans ces circonstances-là, nous puissions avoir au fond de nous l'amour du Saint-Esprit qui nous rappelle le cœur du bon berger, qui marche avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, et qui nous soutient en toutes circonstances. Seigneur, je te prie en particulier pour ceux qui parmi nous, peut-être en ce moment, passent par des souffrances terribles, ou qui ont encore des plaies non guéries, non cicatrisées. Seigneur, que ce week-end, tu puisses leur parler, leur faire entendre la voix du bon berger et qu'ils trouvent auprès de toi du repos et des verts pâturages. Amen.